Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Alors, pour parler de ce sujet un peu sensible, nous sommes en studio avec le professeur Stéphane Droupy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service urologie et andrologie au CHU de Nîmes. Alors, pour démarrer, on va parler d'un constat. Les troubles de l'érection au sens large, c'est un sujet tabou, mais bien plus fréquent qu'on ne l'imagine, hein, je crois.
Oui, alors, tabou peut-être plus pour une partie des gens au-delà de 60 ans. Je pense que maintenant, tout le monde sait à peu près que ça peut arriver depuis 25 ans, bientôt, de la mise sur le marché du Viagra. Tout le monde en parle. En revanche, on a pris conscience qu'il y a une partie des jeunes, des gens de moins de 30 ans, qui souffrent de ce problème. Et pour eux, c'est beaucoup plus difficile d'en parler. C'est des gens qu'on ne voit pas du tout. Et il y avait une enquête de l'IFOP qui montrait qu'il y avait jusqu'à 23% des jeunes de moins de 30 ans qui souffraient régulièrement ou de temps en temps, et c'était corroboré par les données des femmes du même âge.
Donc qui consultent pas, parce qu'ils n'osent pas.
Ils consultent pas, et on s'aperçoit en plus qu'ils commandent des médicaments dans 80% des cas sur Internet.
Ils se mettent en danger en plus.
Donc, ouais. Probablement, oui.
Alors on va reprendre les bases. Hein. Déjà, comprendre comment ça marche l'érection. Qu'est-ce qui provoque la dureté d'un pénis?
Alors le pénis, c'est une espèce d'éponge vasculaire, entourée par une membrane solide, on va dire. Hein. Mm-hmm. Pas trop solide, mais solide quand même, il faut faire attention. Et cette éponge, elle est active, ce qui fait qu'à l'état flaccide, on va dire, quasiment toute la journée ou pas, enfin bref, elle est contractée. Et puis, au moment d'une stimulation, elle va se relâcher, laisser le sang artériel rentrer à l'intérieur. Et c'est ça qui va permettre d'augmenter le volume et puis d'obtenir la rigidité.
Si je ne me trompe pas, il y a comme un robinet, entre guillemets, hein, qui, en dehors de la phase d'érection, le robinet de sang, il est fermé, hein, c'est ça le reste du temps ?
Le robinet, on va dire, il y a le système artériel qui va remplir cette éponge, mais c'est l'éponge qui décide, en fait. C'est-à-dire, soit elle est contractée, et à ce moment-là, c'est la flaccidité, soit elle se relâche, et à ce moment-là, elle laisse entrer le sang.
D'accord. Alors, on vient de comprendre ce qui se passe quand le pénis se met en érection, mais ce qui est bien, c'est quand cette érection, elle dure un peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour la maintenir, l'érection ?
Alors, c'est très complexe, en fait, il y a plein de petites choses qui peuvent la rendre fragile par ailleurs. C'est-à-dire que d'une part, il faut que l'éponge, que ce tissu-là soit de bonne qualité, donc pas abîmé par les maladies cardiovasculaires qui vont avoir tendance à abîmer le tissu et le revêtement de ce tissu, ce qu'on appelle l'endothélium, hein, qui peut être très fragile quand on a de l'hypertension, quand on fume, quand on ne fait pas de sport, quand on a du cholestérol, par exemple.
Ah oui, elle s'abîme vite, hein, cette éponge, hein, c'est fragile
vite.
En fait.
Ouais,
hein,
c'est l'intérieur des vaisseaux, c'est l'intérieur des vaisseaux, il faut que les nerfs, et je parle là des nerfs depuis le cerveau, hein, soit fonctionnels, et donc ça fait intervenir beaucoup, beaucoup de choses. Il faut que les artères fonctionnent bien, puisque c'est une arrivée de sang. Et puis, il faut que le système hormonal soit aussi pas défaillant.
Oui, donc, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent bien fonctionner pour arriver au bout. Donc, l'érection aussi, il y a l'érection, la fameuse érection matinale, c'est fréquent. Une bonne fois pour toutes, est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi il y a cette érection matinale ? Parce que ça n'a rien à voir avec la sexualité, si je ne me trompe pas. Hein.
Non, ça n'a pas à voir vraiment avec la sexualité. On parle plus volontiers d'érections nocturnes, en fait, puisque c'est des érections qui sont concomitantes du sommeil des rêves, du sommeil paradoxal.
Alors, c'est peut-être quelque chose de sexuel, alors, finalement.
C'est des rêves érotiques ou pas forcément ?
Pas que des rêves érotiques, non, en fait. C'est-à-dire que cette phase de sommeil paradoxal qui arrive toutes les heures et demie, deux heures pendant le sommeil, c'est une phase de sommeil très profond avec un relâchement musculaire complet, les mouvements oculaires rapides, hein, les REM, et puis une érection.
Ah oui, donc il y en a plusieurs fois dans la nuit, en
voilà,
fait, celle
en a
du matin, entre guillemets,
voilà.
Ça arrive à plusieurs reprises.
On peut
reprises.
Les enregistrer, il y a des dispositifs d'accord. pour les enregistrer.
Je crois que lorsque justement elles disparaissent, éventuellement, ces érections, alors matinales, moi j'aurais sûrement matinales, même si on a compris qu'il peut y en avoir plusieurs dans la nuit, mais c'est peut-être le signe qu'il y a un souci, non, je crois, quand elles disparaissent, quand il n'y en a plus.
Alors effectivement, elles sont très sensibles, notamment aux variations hormonales. C'est-à-dire que quand il y a un déficit en testostérone, c'est les premières érections qui vont en souffrir, entre guillemets.
Alors, les problèmes d'érection, on a compris que ça pouvait concerner les hommes à tous les âges. À partir de quand on considère véritablement qu'il y a un problème ?
Alors, effectivement, ce n'est pas une petite panne, une fois de temps en temps, qui peut être considérée comme un vrai problème d'érection.
Il ne faut pas s'inquiéter dans ces cas-là, on est
voilà,
d'accord.
Il ne faut pas s'inquiéter.
Les femmes qui disent « mais non, t'en fais pas mon chéri, ce n'est pas un problème », on n'a pas tout à fait tort.
Non, on n'a pas tout à fait tort. Il faut savoir depuis combien de temps ça dure. Effectivement, ça dure depuis 2 ans.
Là, il faut s'inquiéter quand même.
Problème. Non, en gros, dans la définition officielle, c'est des problèmes qui sont récurrents, quasiment à toutes les tentatives, et qui durent depuis plus de 3 mois.
D'accord. Ah oui. Voilà. Et là, on est d'accord, il faut consulter. C'est ça la première
c'est
chose à faire.
Ouais. Oui.
On
ne
regarde pas sur Internet, on ne cherche pas des médicaments sur Internet. Tout ça, c'est évidemment déconseillé.
Oui, là, c'est déconseillé. Ouais.
Et on consulte qui ?
Alors, je pense que le premier recours, c'est le médecin généraliste, d'abord, parce que c'est lui qui vous connaît, qui connaît votre famille, qui connaît votre vie, qui connaît les médicaments
que
vous
prenez. Ça peut gêner les gens, ça, justement. Le côté, il me connaît trop bien, j'ai pas envie.
C'est vrai,
voilà.
C'est vrai, oui. Moi, je suis dans un coin où les gars tutoient leur médecin généraliste, donc...
On n'a pas forcément envie d'en parler au monsieur qui nous suit depuis toujours. Si justement on a cette gêne, on va voir qui ?
Un urologue, andrologue ?
Eh bien voilà, on va aller voir un urologue ou un sexologue. Aujourd'hui, en France, les sexologues sont des médecins, la plupart, et ont un diplôme la plupart du temps. Et donc du coup, on peut quand même avoir toute confiance dans les sexologues français et les urologues, effectivement. Oui.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. À présent, je vous propose un éclairage sur les problèmes d'érection, sujet tabou mais assez fréquent. On va faire le point sur ce sujet sensible avec vous, professeur Stéphane Droupy. Je rappelle que vous êtes chef du service urologie et andrologie du CHU de Nîmes. Alors professeur, on a défini juste avant quels sont les critères pour parler véritablement de dysfonction érectile. Quel que soit l'âge du patient, c'est toujours important de consulter pour ce motif. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ça peut éventuellement cacher autre chose ?
Alors oui, et notamment chez les gens qui prennent un peu d'âge. Autant chez les gens de moins de 45 ans, la cause est le plus souvent psychologique, relationnelle, stress, etc. Autant au-delà de 60 ans, on va dire que c'est quand même très très fréquemment lié à...
un problème de tuyau.
Un problème de tuyaux, alors de plein de tuyaux.
Je dis ça parce que vous désirez artères, évidemment.
Mais on a plein de tuyaux, on n'est fait que de tuyaux, en fait. Et oui, il y a les problèmes cardiovasculaires qui, très clairement, sont importants parce que la dysfonction érectile peut être un symptôme sentinelle. C'est-à-dire qu'on peut commencer par souffrir de dysfonction érectile et 3 ans plus tard, faire un infarctus. Donc c'est important de le reconnaître dans ce sens-là. Les gens qui ont des facteurs de risque, tabagisme, cholestérol, hypertension, sédentarité, sont des gens qui sont à risque. Et on sait qu'ils ont plus de chances de faire un accident grave.
Donc même si du point de vue, on va dire, sexuel, ça ne vous pose pas de problème, ça peut arriver, hein, qu'un homme s'en fiche et n'ait pas envie de consulter pour ça, allez-y, parce que peut-être ça peut être le début de quelque chose de plus grave au niveau cardiaque, notamment. Hein, c'est ça. Donc ça vaut le coup, effectivement, de consulter, on a dit, un généraliste ou un urologue ou un sexologue. Enfin, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont médecins. On a vu des articles sur des cas de dysfonction érectile, là, on est un peu plus dans l'actualité, après une infection de Covid. Est-ce que c'est vrai ? Comment ça peut se produire ? Et si oui, quel est le lien ?
Alors oui, comme on l'a dit tout à l'heure, l'érection, c'est un reflet de la bonne santé. Et le Covid, c'est plutôt un état de mauvaise santé. Donc à ce titre-là, on va dire qu'un petit Covid, comme on en voit pas mal aujourd'hui, un rhume, ça ne va pas poser de problème, pour être clair. Mais un gros état de fatigue, un Covid long, des séquelles respiratoires, etc. Oui, on va passer dans une maladie chronique. Et dans ce cadre-là, bien sûr qu'on va se retrouver avec des dysfonctions érectiles, on ne les voit pas encore vraiment pour le moment.
Mais c'est parce que l'état général est mauvais, finalement
mais
ça marche plus
de ce côté-là. C'est provisoire, rassurez-nous.
Rassurons-nous.
Oui.
En pratique, il y a de petites études qui ont montré des virus à l'intérieur du pénis et dans les testicules. On ne sait pas du tout ce que ça va devenir, parce que c'est juste que c'est un tropisme du virus pour les tissus vasculaires, donc ça marche aussi. Mais aujourd'hui, il y a une étude qui est sorti là de l'Université de Floride, qui montre qu'il y a quand même un risque multiplié par 3.
Ah oui.
Pour les gens qui font un Covid versus une population contrôle qui n'en fait pas, c'est passé de 5% à 15%. Et aujourd'hui, sur les Covid longs, on ne sait pas exactement,
recul,
mais on peut penser que toutes les séquelles de maladies chroniques s'appliqueront, et on sait que les maladies chroniques sont pourvoyeurs de dysfonction érectile.
Trouble de l'érection après Covid ou pas, de toute façon, consultez. Oui, le message est le même. Y a des examens que vous proposez déjà quand un homme, justement jeune ou pas, vient vous consulter pour des troubles de la dysfonction érectile. Je sais pas, est-ce que vous allez passer des examens d'imagerie ? Enfin, qu'est-ce que vous faites comme check-up, on va dire ?
Alors, assez peu. Il faut vérifier qu'il est en bonne santé, donc vérifier qu'il n'a pas de diabète, pas d'insuffisance rénale. On vérifie la plupart du temps les hormones, donc la testostérone.
Bien sûr.
Mais c'est à peu près tout. Le reste, c'est un diagnostic d'interrogatoire. On ne fait pas systématiquement d'écho Doppler. Il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de choses comme ça. On fait le point avec le patient. Et ensuite, le traitement va être un traitement qui va être défini sur l'efficacité. Hein, on veut une meilleure érection, donc on va essayer de l'obtenir.
Donc vous tâtonnez peut-être au départ, vous prescrivez premier médicament.
Voilà.
Si ça ne fonctionne pas, on cherche autre chose.
On ne débouche pas les vaisseaux, en fait. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui permette de déboucher un vaisseau ou de changer un air.
Un homme qui perdrait du poids, parce que par contre, on sait, avoir de la graisse abdominale, c'est pas bon pour la santé cardiovasculaire, mais un homme qui perd du poids, ça peut être des érections qui s'améliorent, par exemple ?
Alors, il faut le faire assez tôt.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on pense qu'au-delà de 55 ans, la prévention ou la prévention secondaire, ça ne va plus être très, très efficace. Mmh. Mais avant, oui.
Donc, éviter de grossir en vieillissant,
éviter
ça, ça
fumer,
va permettre de...
traiter précocement votre hypertension, garder une activité physique, et ça, ça évitera que vous fassiez des problèmes d'érection.
Est-ce que l'origine peut être uniquement psychologique, parfois, comme on l'entend beaucoup ?
Alors, oui. Oui, oui, il y a...
Chez les jeunes, hein, sur
ouais,
ce
que vous
disiez,
je vous disais,
ouais.
Chez les jeunes. Après, il y a souvent un entremêlement de facteurs, on va dire, organiques, c'est-à-dire de facteurs de maladie, et puis de facteurs psychogènes. Hein. Mm-hmm. Mais effectivement, avant 45 ans, c'est très, très, très vraisemblablement un problème psychologique majoritaire. Après 60 ans, il y a souvent quand même des problèmes associés. Mais les deux sont souvent intriqués. Quand même.
Vous disiez que vous vérifiez les hormones, notamment enfin, la testostérone chez ces hommes qui viennent pour une dysfonction érectile. Est-ce que ben, là, pour le coup, si vous voyez que ben, je sais pas, il manque de la testostérone, vous en rajoutez, puis ça peut régler le problème, ça c'est possible ?
Ça peut, oui. Ouais. Si c'est le problème majeur, effectivement, on va être dans ce qu'on appelle un syndrome de déficit en testostérone, souvent lié à l'âge. Hein, c'est appelé andropause, etc. Mais ce n'est pas très, très clair, andropause. Donc on parle plutôt de syndrome de déficit en testostérone. Et là, oui, s'il manque de testostérone, que c'est avéré et que ça entraîne d'autres symptômes, la dysfonction érectile, mais il y a plein d'autres choses. Hein. Les hommes vont perdre leurs muscles, etc. Oui, il y aura une indication à leur donner la testo. Ouais.
Alors, parlons de ces fameux médicaments comme le Viagra ou le Cialis et les autres traitements qui ont été une révolution dans ce domaine. Comment ils agissent, eux, grosso modo ? C'est ça, ils rajoutent de la testostérone ? Non,
du tout.
Ça marche
alors,
pas comme ça.
C'est absolument pas hormonal. Ce sont des facilitateurs, en fait. Donc, ils ne vont pas déclencher une érection.
Ça a été découvert un peu par hasard, non ? Je crois d'ailleurs l'effet sur l'érection, en tout cas.
C'est ça, oui. Le sildénafil, donc le Viagra, est un médicament qui avait été testé pour les maladies cardiaques et qui n'était pas très, très efficace sur l'angine de poitrine. Par contre, les gars disaient, tiens, par contre, je dors mieux.
Je suis en forme.
On a dit,
on va peut-être le dérouter.
Ouais, mais ça marche comment, alors ?
Alors, du coup, ça va relâcher, ça va améliorer le potentiel de relaxation de cette éponge, là, dont on a dit qu'elle était essentielle. Et ça va lui permettre d'être relâché plus longtemps et plus totalement, ce qui fait que ça va permettre des érections plus longues et de meilleure qualité.
Alors, il faut le prendre avant chaque rapport sexuel, là ? Comment ça se passe ?
Alors, il y a deux types de modalités d'utilisation. Pour tous les IPDE5, donc ces médicaments-là de la famille du Viagra, on peut les prendre à la demande, c'est-à-dire on les prend environ une heure ou deux avant le rapport. Et on va dire, en fonction des produits, ils ont une action qui va durer de 10 à 48 heures. Donc ça, c'est une prise à la demande.
Il faut quand même être sûr à peu près de ce qui va se passer derrière.
Et s'il ne se passe rien, il se passe quoi ?
S'il ne se passe rien, il faut regarder...
ah oui, d'accord, il faut s'arranger soi-même.
Un débat politique ou un truc comme ça pour ne pas avoir d'érection.
C'est ça, oui, parce qu'après, s'il n'y a pas le stimuli, il ne va rien se passer.
C'est pas dangereux,
c'est ça ?
Normalement,
ah,
non,
oui,
il ne va rien
se passer. C'est le sens de ma question. Si on prévoit une bonne soirée et qu'elle n'est pas si bonne que ça, comment on fait ?
Non, à dose thérapeutique, il n'y a aucun risque.
D'accord.
Et puis, il y a l'autre modalité, pardon, pour répondre complètement à votre question, l'autre modalité de prise qui est en prise quotidienne. Donc, il y a un des produits qui s'appelle le tadalafil, qui est le Cialis. On peut prendre à petite dose, 5 mg, tous les jours. Et ça, ça évite d'avoir
mal,
à programmer.
On n'a pas à prévoir.
Voilà, mais par contre, il faut avoir une utilisation suffisante. C'est-à-dire que si vous avez un rapport tous les mois,
ça sert à rien,
prendre un comprimé tous les jours, les gars, ils ne vont pas s'y retrouver. Ni financièrement, même si c'est quand même moins cher aujourd'hui, ni dans le fait de prendre un médicament tous les jours, il peut y avoir des effets secondaires. Mais quand on a des rapports régulièrement,
c'est très bien. Ça fonctionne chez tout le monde ou pas ? Il y a des hommes qui sont réfractaires, enfin chez qui ça ne fonctionne pas.
Oui, toujours. En gros, c'est quand même des médicaments qui marchent très bien. On peut dire que trois quarts des patients vont avoir une amélioration de leur état et certains vont être complètement normalisés. Oui.
Et vous en pensez quoi des crèmes pour avoir une érection plus durable ? Ça agit comment ? Est-ce que ça donne de bons résultats ?
Alors, il y a plein de choses qui se vendent qui ne sont pas des vrais médicaments, qui n'ont pas été testés, notamment tout ce qui va être en application cutanée, il n'y a pas de preuve. Il y a ce qu'on appelle peut-être des crèmes ou des gels, et notamment il y a l'alprostazide qui est en gel, qui est un médicament qu'on met dans le canal de l'urètre, et lui va pouvoir déclencher des érections. Les autres, c'est quand même pas très bien prouvé. Hein.
Bon, il y a d'autres choses, il y a des injections dans les corps caverneux, donc ça c'est des auto-injections, il y a aussi des prothèses, on n'a plus beaucoup de temps, donc je passe un peu vite là-dessus, mais on vous réinvitera parce qu'on a envie d'en savoir plus quand même. J'ai vu par contre qu'aux États-Unis, il y avait des solutions contre la dysfonction érectile qui consistent à des injections de plasma. C'est quoi le principe et c'est utilisé en France,
ça ? Alors, ça arrive tout juste, c'est du plasma riche en plaquettes. C'est en fait, on prend votre sang, on le centrifuge, on récupère une partie qui est soi-disant riche en facteurs de croissance et on vous le réinjecte directement dans votre pénis. Et ça, c'est censé améliorer la qualité des érections.
Et
En fait, ça a été pendant très longtemps sans aucune preuve. Là, il y a deux petites études qui commencent à sortir. Franchement, c'est encore...
C'est pas le futur, selon vous, pour l'instant.
Ouais. Ça sera peut-être le Botox. J'ai entendu parler du Botox.
Alors, le Botox, là... Oui,
ça, il y a une étude qui va se lancer en France, je crois.
Française, ouais. Oui, c'est François Juviano qui est à Garches, qui a inventé ça, qui a trouvé ça. Et là, on démarre une étude, enfin, il démarre une étude multicentrique avec un comparateur.
Et là, donc ça n'a pas démarré. On attend les résultats. Vous allez démarrer l'étude.
Voilà, mais déjà, ça marche bien sur le front. Pour le reste, on verra. Est-ce que du côté des compléments alimentaires, il y a quelque chose en phytothérapie, par exemple, quelque chose de naturel qui pourrait aider à l'érection?
Alors, il faut faire attention, puisqu'il y a des produits naturels qui vont être adultérés avec des IP2E5. Aujourd'hui, quand on a de la corne de rhinocéros ou de l'élan de requin, l'idéal, c'est de mettre du Viagra dedans. Comme ça, on est sûr que ça marche et qu'on en vend. Donc, la plupart des produits naturels sont adultérés avec ce type de produit aujourd'hui. Donc, il faut faire très attention, parce que les doses sont aléatoires. Et puis après, il y a effectivement quelques produits naturels de phytothérapie, comme le ginseng rouge, le ginkgo biloba.
Ça marche,
biloba.
Ça améliore la santé érectile.
Dites les noms.
Ginseng rouge, ginkgo biloba, il y a la maca, je ne connais pas personnellement, il y a la yohimbine.
Mais il y a des preuves de tout ça?
Tous ces produits-là, on fait une petite étude un jour.
Ouais.
Et puis après, voilà. Donc très probablement que ça avance. Ça améliore pas considérablement les choses.
Mais si vous y croyez très fort,
voilà,
peut-être.
On sait que dans ce domaine, de toute façon, on prend n'importe quoi, il y a 30% d'amélioration.
Ah, donc, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Comme quoi dans la tête.
Bah ouais, il s'en passe des choses. Merci beaucoup, professeur Droupi, de nous avoir accompagnés ce matin. Et merci pour toutes ces précisions sur ces problèmes encore trop tabous chez les hommes. Et c'est dommage, parce qu'on l'a vu, il y a de nombreuses solutions. Donc n'hésitez pas, messieurs, à consulter surtout.
Merci beaucoup, professeur Julien. Maintenant, on va lancer notre séquence tendance. On va l'ouvrir avec la chronique très dynamique. Vous allez la voir, de la coach Anouk Garnier. Elle nous a préparé aujourd'hui une petite session de remise en forme à base de squat. Ensuite, c'est Elsa Lévy qui va nous parler aujourd'hui de quelque chose de très pratique. Comment faire vraiment durer nos téléphones portables? Et enfin, on terminera en beauté avec une évasion sur une île grâce à la chronique de Gavins Clémenté Ruiz. Il nous embarquera sur l'île de Madère. Alors rien que pour ça au moins, restez sur Europe 1.